France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Dans le Haut-Rhin, nous nous arrêtons aujourd'hui à Tannes, commune de 7800 habitants, dont la particularité est d'entretenir une démocratie participative qui s'exprime entre autres par l'ouverture des commissions municipales aux citoyens, soucieux d'apporter leurs contributions et leurs compétences aux projets locaux. C'est un exemple quasi unique en Alsace et plutôt rare en France. Une bonne idée à suivre. Et puis, une bonne nouvelle aussi dans le Pas-de-Calais, là où les industries textiles s'étaient écroulées à la fin des années 90 sous le coup de la concurrence et de la délocalisation. Depuis peu, une société coopérative renoue avec la confection textile. Elle s'appelle les Cousali et elle va employer des personnes en insertion.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Nicolas Morvan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez en charge la démocratie participative. Tiens donc, à Tannes, sous-préfecture du Haut-Rhin, 7800 habitants. En fait, on est dans la communauté de communes de Tannes-Cernay, près de Mulhouse, qui commence à avoir déjà beaucoup de population. Je crois que la communauté de communes, c'est plus de 30 000 habitants. Quelle forme prend la démocratie participative chez vous ?
Alors, il y a des formes qui sont assez légères, comme le fait de faire des permanences des élus. Il y en a d'autres qui sont déjà plus constitutives, hein, avec les comités de quartier qui sont en train de voir le jour, qui ont été un peu contrariés par le Covid, mais qui vont prendre vraiment toute leur place là dans les mois qui viennent. Et puis l'originalité qu'on a chez nous à Tannes, c'est surtout l'ouverture des commissions municipales. Ça, c'est quelque chose qui est très peu répandu en France, et on serait la première commune en Alsace à le mettre en œuvre. L'idée, c'était d'intégrer les citoyens à la vie politique de la commune. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'habitants qui sont insérés dans des associations qui font vivre la commune à travers ça, mais au niveau politique, le fait d'ouvrir les commissions municipales, ça change vraiment la donne. Les commissions municipales, c'est donc là où on fait des propositions pour la ville, pour l'avenir de la cité, donc les commissions sport, éducation jeunesse, environnement, etc. Et normalement, c'est réservé aux élus. Et nous, l'idée, ça a été d'ouvrir à toute la population, de dire ceux qui veulent intégrer les commissions, n'hésitez pas à nous faire une lettre de motivation, à vous intégrer, ça prend 2 à 6 réunions par an, et vous êtes pour 2 ans au sein de la commission de votre choix. Et on a eu 51 citoyens qui se sont ainsi proposés pour intégrer les commissions ou les groupes de travail.
Ils sont des personnes évidemment qui choisissent les commissions en fonction de leurs compétences. Elles apportent quelque chose de plus par rapport aux décisions que vous pouvez prendre ?
Absolument. C'est tout le but de la démocratie participative dans ce cas-là. C'est de surtout pas de se priver de compétences et de connaissances que peuvent avoir des citoyens qui sont prêts à donner 1 heure, 2 heures, 5 heures de leur temps par mois pour la commune, mais qui ne souhaitent pas être conseiller municipal ou qui n'ont pas été élus. Et on a par exemple un botaniste à la retraite qui a intégré la commission environnement et qui nous a apporté beaucoup sur le choix des arbres par rapport à l'envergure que les arbres vont prendre. Eh bien, nous, en tant que simple conseiller municipal, ce n'est pas des données qu'on peut prendre en compte. Pour le groupe de travail autour du plan vélo, on s'est entouré de gens qui pratiquent véritablement le vélo et qui vont compléter l'étude qui a été faite de façon peut-être de caractère plus urbaniste. On a intégré des jeunes dans le groupe de travail jeunesse qui n'auraient pas été évidemment au conseil municipal. Et on a aussi, par exemple, on a pris la décision d'éteindre l'éclairage public entre minuit et 4h30 dans notre commune. Ça a duré 2 mois et à la fin on a fait le choix au sein de la commission environnement et démocratie participative de consulter les citoyens pour savoir s'ils voulaient ou non qu'on prolonge l'expérience, qu'on la fasse de façon pérenne. Et on a une de nos citoyennes associées, hein, c'est comme ça qu'on appelle les citoyens qui ont rejoint nos commissions, une citoyenne associée qui nous a suggéré de proposer aux habitants différents horaires.
Et techniquement, Nicolas, comment faire pour mesurer la juste parole des citoyens, c'est-à-dire qu'ils aient suffisamment de poids dans les décisions, mais peut-être pas trop, parce que certains élus craignent d'être débordés?
Alors, la peur n'évite pas le danger, hein. Mais une fois qu'on a effectivement commencé à intégrer les citoyens, on a d'abord fait signer une charte qui nous avait été remise par une autre commune en Bretagne. c'est une charte dans laquelle les citoyens s'engagent à avoir les mêmes devoirs que n'importe quel élu qui siège au sein de la commission. Mais il a les mêmes devoirs, comme la confidentialité, comme le respect de la parole d'autrui, etc. Mais il a aussi les mêmes droits. Il a le même droit à la parole, il a le même droit à l'information, et il a le même droit à l'accès aux documents de travail. Et du coup, ça permet de responsabiliser chacun et de n'avoir des citoyens qui ne sont que un plus pour les commissions.
Est-ce que les citoyens peuvent apporter aussi leur grain de sel sur le vote du budget communal ?
Par exemple, ils peuvent apporter des suggestions dans le cadre du budget, dans le cadre de la commission finance. On a plusieurs citoyens qui sont intégrés dans la commission finance. Après, il y a une limite quand même à la démocratie participative, c'est quand même la démocratie représentative.
Bien sûr.
Et on ne va pas non plus faire quelque chose pour lequel on n'a pas été élu. Disons, on va partir dans un sens inverse. Par contre, ils peuvent apporter des choses supplémentaires. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que en plus, ça permet d'éviter aussi le « y a qu'à faucon ». Des gens qui intègrent les commissions, ils prennent ainsi conscience des contraintes administratives, législatives, financières qu'on peut avoir dans l'action municipale. Et là, on fait prendre conscience aux citoyens associés que ben peut-être eux aussi pourraient être conseillers municipaux à l'avenir et remplacer ceux qui ne se représentent pas, quoi.
Merci pour le témoignage, Nicolas.
Merci beaucoup.
France Inter, carnet de campagne.
Jean-Marc nous fait part dans son courrier du projet d'une jeune association domiciliée pour l'instant à Soultz dans le Haut-Rhin qui ambitionne de créer un centre de soins pour les hérissons. Le lieu envisagé serait chez le voisin vosgien à Bussan. C'est pas la première fois que nous recevons une alerte d'ailleurs pour ce brave animal dont la disparition semble quasi inéluctable. Figurez-vous que les plus pessimistes prévoient la date très proche de 2025. Cela concerne l'espèce du hérisson d'Europe, d'où la création de cette association chez Risson. Ouais, sacré jeu de mots. Chez Risson, le hérisson, il fallait quand même le trouver. Il n'empêche que ce projet qui avance très vite, beaucoup plus vite que le hérisson, sera la première structure consacrée à cet animal dans la région du Grand Est. À Bussan, un ensemble de parcelles de prairies a été acheté par l'association afin d'y installer ce centre qui pourra évidemment s'ouvrir à d'autres espèces par la suite. Pour l'instant, le seul centre de sauvegarde de la faune sauvage est en Meurthe-Moselle, à plus de 2 heures de route de Bussan. L'association envisage de mettre en marche un système de parrainage d'animaux et des partenariats afin de pourvoir aux besoins financiers du centre. Je vous laisse juger du programme sur le site. Donc c'est chez chez Risson, le hérisson, c'est bien trouvé, .fr, ça m'amuse. Pour rester dans le monde animal, à connaître et à préserver, Jean-Claude nous informe de la naissance d'un nouveau magazine qui promet d'être remarquable. Il s'appelle Vivant. Son objet de témoigner de la richesse, de la biodiversité, de son extrême fragilité aussi, et de souligner les initiatives qui permettent aux espèces animales de survivre et de cohabiter avec les hommes dans un bon équilibre. Le magazine trouve ses origines dans un travail d'étude et de reportage réalisé en Inde sur les tigres du Bengale. D'ailleurs, leurs superbes robes rayées font la une du premier numéro. Le souhait émis par le comité de rédaction est le suivant: raviver la curiosité, l'émerveillement face à la formidable créativité de la nature qui s'exprime à travers nous et tout ce qui nous entoure. Il y a plusieurs rubriques à découvrir dans ce trimestriel. Il y a une campagne de pré-lancement qui est en cours sur Ulule. Ça s'appelle donc Magazine Vivant. Le magazine sera Vivant. Magazine trait d'union Vivant. Vous allez trouver le lien à nos pages d'émission. Hélène Maréchal, bonjour.
Bonjour Philippe.
Hélène, vous dirigez les Vestalis, une association d'insertion à Liévin, et vous présidez, donc c'est une toute nouvelle SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, les Cousalis. Les Cousalis pour fabriquer des vêtements français, et en particulier des jeans, dans la lignée de ce que fait Thomas Hurier avec les jeans 1083.
C'est bien ça. Donc Vestalis est une association d'insertion. On a été créé un petit peu à une époque, il y a plus de 20 ans, où une grande entreprise de jeans américains finalement a fermé à Labassée dans le Nord, en laissant plus de 500 salariés sur le carreau à l'époque, essentiellement des femmes. Donc Vestalis, on s'est attaché à mettre en place des activités d'insertion liées au textile, la récupération, la confection, etc., pour renouer aussi avec un savoir-faire. Et puis, récemment, on a été contacté par Emmanuel de Foulois, qui travaille à l'AFP et qui est en relation avec le jean 1083, qui cherche en fait des ateliers de fabrication de jeans. Donc on s'est dit, écoute, pourquoi pas nous ? On a le savoir-faire, on a une volonté de former des gens dans les métiers du textile, donc on peut étudier cette possibilité. possibilité de renouer avec l'industrie textile et notamment la confection de jeans sur notre territoire.
Quand on dirige une association d'insertion comme la vôtre, Hélène, et que l'on prend une vague en pleine phase de 500 personnes mises à la porte, licenciées, comment vous avez pu gérer ce drame ?
Alors, il y a eu des phases, c'est-à-dire qu'au tout départ, dans les années 2000, on se retrouvait avec énormément de femmes qui avaient un savoir-faire indiscutable au niveau du textile et de la confection, et qu'il fallait au contraire orienter vers d'autres métiers, parce qu'il fallait se reconvertir, il n'y avait plus de possibilités. Autant cette entreprise qui a eu un peu les phares sur elle, avec notamment une pièce de théâtre qui a été montée avec Bruno Lajara, 501 Blues, mais il n'y a pas eu que cette confection-là, il y a eu plein de confections sur le bassin minier de l'Anse-Liévin qui ont fermé à cette époque-là. Et du coup, pour nous, le challenge, c'était redonner confiance à ces femmes qui avaient perdu leur emploi, essayer de les accompagner au mieux vers une autre trajectoire professionnelle. Et puis, cette phase-là s'est finalement transformée et maintenant, on est plus avec plutôt des jeunes entreprises comme 1083 et comme d'autres qui veulent absolument faire de la confection française de qualité et pour lequel en fait on n'a plus tellement de savoir-faire, un savoir-faire qui se perd, qui s'est perdu peu à peu. Et en fait là maintenant on se retrouve plus avec des personnes qui n'ont plus le savoir-faire de base en confection et que nous en fait association d'insertion on se propose de former pour réorienter vers ces métiers, pour faire redécouvrir ces métiers aussi de l'industrie textile et renouer avec un savoir-faire qui s'est perdu au fil de ces années.
Mais vous aviez encore du savoir-faire avec les licenciés de l'ancienne entreprise de la Bassée.
Oui, on avait encore le savoir-faire dans le début des années 2000, mais ces dames arrivent aussi à un âge qui est proche de la retraite, mais on s'appuie sur elles. Bien sûr, elles font partie de notre collectif, hein, puisque comme vous l'avez dit, les Cousalis, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc voilà, ces anciennes salariées, bien sûr, font partie, certaines font partie de notre collectif et vont être formatrices, vont s'intégrer au projet et s'intègrent au projet depuis le départ, depuis qu'on a été contactés par 1083 pour mener à bien ce grand projet.
Vous en êtes où de la mise en route des Cousalis ?
Alors, de la mise en route des Cousalis, là, en fait, on compte 21 membres dans notre coopérative qui sont issus de différents horizons, des entreprises, des associations, des particuliers, des collectivités aussi. Le département du Pas-de-Calais nous a rejoints dans la coopérative, par exemple. Et après une phase d'études de faisabilité qui s'est menée de janvier à septembre 2021, la société a été déclarée en juillet 2021 et après toute la partie travaux, bien sûr, qui a ses petits retards, hein, comme dans tous les travaux, on est enfin prêt et on devrait démarrer l'activité concrètement sur le terrain à Liévin en mai 2022, donc là, très très prochainement.
Et avec combien de salariés en insertion ?
Alors, dans un premier temps, 9 salariés en insertion. Et puis, d'ici 2024, on prévoit 24 salariés, alors tout profil confondu, c'est-à-dire soit salariés en insertion, soit salariés en emploi pérenne.
Parce que je sais que c'est un souhait qui vous est cher, à nous aussi,
oui.
C'est que les personnes en insertion puissent enfin bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ensuite.
Bien sûr, c'est le but aussi, alors que ce soit au sein des Cousalis ou au sein d'autres sociétés. Notre utopie, c'est aussi que d'autres industriels du textile s'implantent sur notre territoire et qu'on forme un espèce de maillage vraiment très très important, très fort et très solidaire et qui puisse justement compter sur du personnel qui a des compétences, qui a été formé, qui a vraiment un savoir-faire avéré. Et donc, que ce soit au sein des Cousalis ou au sein d'autres entreprises qui s'implanteraient sur notre secteur, c'est vraiment le but de créer des emplois pérennes, bien sûr.
Je souhaite longue vie aux Cousalis et beaucoup de réussite. Voilà une bonne nouvelle. Merci. Que nous sommes fiers de colporter. Merci Hélène.
Merci beaucoup à vous.